Du 4 au 22 mai, retrouvez la deuxième édition du Printemps des photographes à 7. Le collectif Images présente 25 photographes pour découvrir d'autres Suds avec expositions, films, marathons photo et rencontres en public que vous propose Divergence FM, la radio du festival. Le Printemps des photographes, c'est du 4 au 22 mai prochain à 7. Plus d'infos sur le www.printemps-des-photographes.fr.
Tout au long du festival, retrouvez les interviews des photographes et organisateurs qui vous accompagnent tous les jours à 10h et 15h sur Divergence FM.
Philippe Fourcadier, vous exposez donc vous aussi à la galerie Christina Rabasté Manolagas avec deux autres photographes. Alors, je disais précédemment à l'un d'entre eux que ce n'était pas évident de présenter trois expositions aussi différentes dans un même lieu. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. D'autant plus que vous êtes sur les trois le seul qui photographiait sept et exposition qui s'accompagne à peu près pour chacune des photographies d'un texte qui en quelque sorte éclaire le cliché que l'on est amené à regarder, ou en tout cas joue en rapport avec le cliché. Est-ce que ça s'est allé de soi, ces trois expositions, pour ma première question?
Je pense qu'on n'a pas trop réfléchi sur cette question-là. Je crois que ça a été une histoire de purement organisationnelle. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'on s'est trouvé comme ça, coopté de fait, sans trop de réflexion.
D'accord. Alors, donc venons-en à l'aspect très particulier qui est la présence donc de photos et de textes. Ce qui n'est pas très courant dans les expositions photographiques en général.
C'est une longue réflexion que j'ai eue avec mon alter ego en écriture, donc Jean-Claude Feuillarade, mmh. avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans sur plusieurs projets. Donc on a développé un travail sur Pierre-Paul Riquet il y a 4 ans. On a travaillé ensemble sur la bête du Gévaudan, Mystification d'une réalité, il y a 3 ans et demi. Sur l'épopée cathare, il y a 3 ans aussi. Et donc, ça fait partie de notre quatrième volet, notre quatrième collaboration ensemble. Parce que très rapidement, on s'est trouvé des affinités déjà sur le plan humain. Et puis, très rapidement, sur le plan artistique. Et connaissant sa prose et ses capacités de s'adapter à des propositions un petit peu originales, on va dire, très rapidement, je lui ai proposé de travailler un rapport de mes photographies sur des écrits où la forme était absolument libre. Donc lors du premier, on va dire, du premier essai, entre guillemets, sur Pierre-Paul Riquet, il s'est avéré que le duo fonctionnait très bien. Donc nous avons réédité pour les trois dernières éditions.
Et alors, si je comprends bien, les précédentes expériences étaient liées quand même à une forme de patrimoine. Bon, Riquet, c'est une figure historique. La bête de Gévaudan, c'est encore quelque chose qu'on peut repérer. Là, on change un peu de sujet, parce que ce sont vos photographies de sept, mais bon,
ou d'ailleurs
et donc on passe à une autre dimension quand même, non?
Oui et non. Oui, parce que je répondais à la thématique du Printemps des photographes sur d'autres suds.
Mmh.
Donc très rapidement, je me suis dit ça m'intéresserait vraiment de travailler sur un portrait de ville, sur Sète. Et à la fois, non pas vraiment Sète en tant que Sète, mais Sète en tant qu'un lieu repéré méditerranéen, où prédomine la lumière, les ombres, les odeurs, dont je fais référence donc dans la dans l'explication de mon travail, et c'est ce qui a guidé mon travail.
D'ailleurs, on est aux antipodes de la carte postale de Sète. C'est vraiment un regard à la fois très personnel et très décalé de ce qu'on a l'habitude de voir.
Absolument. Renforcé par les écrits de Jean-Claude, donc qui se charge, lui, de faire exploser le cadre habituel et de nous propulser dans des imaginaires dont il a le secret.
Alors voilà, parce qu'il faut préciser que le texte n'est pas un commentaire de la photographie, bien au contraire.
Absolument.
C'est un texte qui est parallèle, on pourrait dire, à la photo, et qui, du rapport entre les deux, naît des choses dans l'esprit du visiteur. Et d'ailleurs, je suppose que c'est la raison pour laquelle, de manière volontaire, les textes sont encadrés dans un format qui est exactement le même format que les photographies.
Absolument. Vous avez l'œil. c'est tout à fait le signal que je voulais envoyer, à savoir que le texte n'est pas là pour accompagner, il n'est pas là pour légender la photographie, il fait partie d'un tout, d'une entité globale, resserrée, enserrée, faisant partie l'un et l'autre de la même entité. D'où la complexité de présentation, et pour essayer de donner cette vision d'une entité absolument globale. Donc très rapidement, je me suis tourné vers un encadrement identique pour bien signifier que le texte était aussi important que la photographie. Et que sans le texte, la photographie n'existait pas.
Alors c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il est hors de question de présenter des photos sans le texte, ou est-ce que, le cas échéant, ou dans le cadre d'une autre exposition, pourquoi pas, c'est envisageable?
Alors pour cette exposition, c'est pas du tout envisageable.
Oui, bien sûr.
L'exposition, elle est telle qu'elle. Elle est présentée en diptyque et elle le restera. Après, je me permets d'avoir la liberté de travailler comme je veux.
Alors, venons-en à la façon dont vous travaillez. Comment ça se passe? Vous photographiez, vous partez, vous investissez la ville, vous faites un certain nombre de photos, vous revenez, vous les présentez à l'écrivain, ou alors c'est un va-et-vient plus subtil, plus...
D'abord, c'est un conditionnement, dans un premier temps. J'utilise souvent le terme de transe, mais sans exagérer. Ou partant donc du constat, pas tout à fait le terme, de l'envie de travailler sur une thématique, je me conditionne pour celle-ci. Je réalise les photographies et puis je les propose à Jean-Claude Feuillarade. Et je lui demande donc d'intervenir, d'écrire sur une ou deux photographies que j'aurais sélectionnées. Et puis, si elle l'inspire, à ce moment-là, de me faire des propositions. En général, il n'y a pas beaucoup de choses à jeter. Ce qu'il me propose est souvent absolument magnifique. Donc, c'est un travail qui se fait assez rapidement, en définitive.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Si d'aventure, quelqu'un venait dans l'exposition et vous dise, la photographie, ça suffit à soi-même, il n'est pas nécessaire de l'accompagner d'un mode d'emploi futile, sans rapport direct avec la photographie, qu'est-ce que vous lui répondriez?
Vous évoquez Cartier-Bresson quand vous dites ça. Je pense que c'est lui qui avait dit ça. Pas de commentaire, la photo se suffit elle-même,
oui,
effectivement. Oui. Je dirais que la création, c'est l'espace de liberté. Et qu'on peut absolument tout faire, et qu'on peut s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire avec la photographie, tout simplement.
Oui, au fond, vous affranchissez totalement de savoir si la photographie c'est ça ou ça ou ça, c'est ce que vous en faites.
Complètement. L'important, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ce que ressentent les gens, Et puis, par rapport à ce que j'entends, par rapport au retour des personnes qui sont venues ici durant les 10 premiers jours du festival, beaucoup de gens sont touchés par les deux, par l'ensemble. Mmh. Certains me disant, quand je suis arrivé devant les diptyques, j'étais d'abord attiré par la photographie. D'autres, c'est l'inverse, d'abord par l'écrit, souvent par l'écrit même. Mmh. Et puis des va-et-vient, donc entre les deux, pour donner naissance à un imaginaire qu'ils se créent eux-mêmes.
Au fond, vous êtes dans une manifestation, le printemps des photographes, mais c'est un objet photographique un peu différent quand même que vous présentez.
C'est vrai. Quand vous dites ça, j'ai proposé ce travail photographique dans les endroits où la photographie n'est pas prépondérante et dans les endroits où l'écrit, par contre, l'est. Mmh, mmh. Donc je me permets de franchir des frontières qui ne sont pas uniquement faites ou prévues pour la photographie. Mmh. Donc des festivals, je pense à celui de...
En Provence.
En Provence, oui.
À Manosque.
Voilà, alors à Manosque, exactement, et un du côté dans la Drôme.
Oui.
Chez la marquise de Sévigné.
Absolument. C'est ça. Absolument.
Voilà, donc je me permets de faire des entorses à la photographie dans ces lieux où je peux me permettre d'exposer les deux.
Comment vous êtes venu à la photographie ?
1976, j'avais le choix entre trois stages, le modelage, le tissage ou la photographie. Sur un coup de tête, je me suis dit, pourquoi pas la photographie ? Et depuis...
Il n'y avait aucun antécédent ?
Aucun.
D'accord.
Aucun. Voilà, donc ça, tout a démarré de là, et depuis, je n'ai pas arrêté d'être accompagné par celle-ci, et dans mon cadre professionnel, et dans mon cadre personnel, la photographie a toujours été omniprésente.
Et alors, est-ce que vous envisagez un jour, peut-être, de faire une exposition sans texte ?
Absolument. Ça m'est déjà arrivé très régulièrement. Mais j'avoue que maintenant, je crois que je me suis pris au jeu. Et c'est vrai que chaque fois que je commence à parler d'avenir, de me dire, bon, maintenant, il faudrait penser à travailler sur autre chose, me vient à l'esprit systématiquement l'envie de la développer avec l'écriture.
Donc la confrontation au texte devient essentielle.
De plus en plus, oui. Mmh. Ouais.
Très bien, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
C'est très intéressant, hein. C'est le fait de pouvoir déambuler dans les rues et puis de se passer de galerie en galerie et de pouvoir admirer des choses différentes dans un point quand même assez limité. Je trouve ça très intéressant, très agréable.
On va de découverte en découverte dans des lieux qui sont presque tous plus beaux les uns que les autres. C'est agréable. Et puis les sujets sont touchants, comme cette par exemple. Pour nous qui sommes cette toi, c'est très bien. On a découvert d'autres lieux, des chais, des endroits magnifiques, avec partout un accueil, soit des photographes, soit des bénévoles. Tout à fait charmant, c'est très bien, très très bien.
Alors Jean-Claude Feuillerat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur donc des textes qui accompagnent l'exposition que présente ici Philippe Fourcadier. Il nous a expliqué que donc il réalise un certain nombre de photographies qu'il vous confie. Et après quoi, vous, de votre côté, vous lui proposez un certain nombre de textes en rapport, en ne voulant pas dire commentaire, en rapport avec les photographies qu'il vous a confiées.
Oui, c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on cherche, tous les deux en fait, à établir un lien entre la photographie et le texte, de telle manière que ni l'un ni l'autre ne soit l'illustration du précédent. L'idée, c'est qu'il y ait une espèce d'entre-deux, entre l'image et entre le texte, un espace qui soit révélé par les deux, mais qui n'est pas révélé par lui-même. C'est peut-être un peu confus, mais il n'est pas possible de dessiner un entre-deux entre le texte et l'image, sauf à créer des liens. Et ces liens, chacun les crée en lisant et en regardant l'image.
Voilà, c'est le visiteur qui fait le travail, au fond.
Donc, comme disait l'autre, c'est le regardeur qui fait le tableau. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de laisser suffisamment d'espace, un nouvel espace, en fait, qui ne soit pas simplement la vue de la photographie, qui va imposer, si elle est toute seule, un travail d'approche du spectateur, ni du texte qui va supposer un travail de lecture, un travail d'interprétation. Là, l'idée, c'est d'avoir entre les deux un nouvel espace.
D'accord. Qui est au fond, c'est dans cet espace que s'exerce la liberté du visiteur et de celui qui regarde.
Alors, cette liberté, elle dépend évidemment beaucoup des libertés précédentes qu'il a accumulées avant d'arriver, des expériences qu'il a pu faire, de sa capacité à reconnaître ses émotions, soit dans ce qu'il voit, soit dans ce qu'il ressent par son expérience coutumière, quotidienne. Et nous, on apporte notre propre lecture des émotions.
Alors, je connais la réponse, mais j'ai quand même envie de poser la question. Quelle est votre profession ?
Alors, je suis expert maritime, je suis ancien capitaine de la marine marchande, j'ai navigué pendant presque 30 ans et je suis expert maritime sur 7 depuis 2003.
Et alors, qu'est-ce qui amène un expert maritime à écrire des textes à caractère très littéraire vis-à-vis de photographies qui lui sont proposées, dans le cas précis, quoi ?
En fait, la rencontre s'est faite un peu par hasard. Moi, j'ai essayé d'écrire et puis je ne suis pas arrivé à quelque chose de sérieux tout seul. Et en rencontrant Philippe, j'ai eu l'occasion de me confronter à un réel qui n'est pas le réel du quotidien, mais qui est le réel déjà d'une œuvre déjà construite. Et cette œuvre déjà construite m'a laissé une ouverture et j'ai essayé de remplir cette ouverture. Et ce prétexte à écrire a été une occasion qui m'a facilité la tâche, en fait, pour essayer de trouver suffisamment de mots et en même temps essayer d'utiliser que les mots nécessaires. Et voilà, c'est un jeu, c'est comme une petite partie d'échec, en fait.
Oui, l'exercice, quand même, semble très, à la fois compliqué et difficile. C'est un fragment de texte qui est en correspondance avec une photographie qui doit avoir une existence propre sans être totalement autonome, puisqu'il joue en référence avec la photographie. C'est une exposition assez savante quand même.
Alors, en fait, le procédé paraît savant parce qu'il y a cette connexion, il y a cette idée de l'entre-deux, entre l'image et entre le texte. Mais ça ne traite que de choses très simples, qui sont notre relation au monde, notre peur de la solitude, notre peur de la mort, et les sensations de bonheur que nous avons tous. Ça parle que de choses élémentaires.
Alors expliquez-moi comment il se fait que... Alors vous disiez que vous aviez eu l'occasion d'écrire. C'est venu comment ? C'est un besoin ? C'est une nécessité ? C'est un vieux désir qui était en vous ? Comment ? Quel est le statut de cette écriture aujourd'hui pour vous ?
En fait, j'ai toujours écrit des petits textes. À l'époque, on envoyait beaucoup de cartes postales. Et comme je naviguais, j'envoyais des cartes postales chez moi. Et j'ai toujours essayé dans ces cartes postales de concentrer à la fois ce que je voyais de nouveau pour mon épouse qui était restée à la maison et en même temps d'essayer de lui livrer le concentré des émotions que j'avais, à la fois d'être loin d'elle et d'être dans ce nouveau. Et cet exercice-là, je l'ai pratiqué pendant très longtemps. Et c'est une certaine façon des cartes postales que j'envoie encore.
C'est une bonne définition, je trouve. Et vous avez envisagé de publier ?
La publication, ça me paraît compliqué. Je fais de la peinture aussi et je sais que pour présenter un travail dans une galerie, par exemple, il faut arriver avec un certain nombre de pièces et que ce nombre de pièces impose une cohérence du travail qu'on va présenter. Et que c'est pas si simple de trouver une cohérence à la fois dans le thème, dans le style, dans la forme, dans la nouveauté de la forme. Et pour les textes, c'est pareil, ça demanderait un travail de cohérence qui est conséquent.
Et est-ce que vous envisagez d'écrire sans la photographie ?
Ben, la question, je me la suis posée. J'attends de trouver cette force de cohérence que je n'ai pas encore et que pour le moment, Philippe me livre.
Donc, ce n'est pas la fin d'une collaboration, ce ne sont que les prémices.
En fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille et petit à petit, on affine notre conjonction. Et c'est pas impossible que chacun travaille seul à un moment ou à un autre. J'avoue que cette cohérence-là est un vrai problème, en fait. Et dans la mesure où Philippe arrive avec un thème, c'est lui qui choisit le thème.
Oui, c'est un thème imposé pour le
coup. Oui, c'est un thème imposé, ce qui n'est pas si mal d'ailleurs pour moi, ça me facilite aussi les choses. Donc le thème est imposé, les photos sont imposées, c'est lui qui les choisit. Et moi, je suis là comme devant une huître. J'essaye d'ouvrir sa photo et de la faire exploser. À la fois d'en révéler l'intimité et d'en montrer l'explosion.
Si on évoquait la forme qu'a pris l'exposition, c'est-à-dire le fait que les textes sont dans un encadrement exactement au même format que les photographies, ce qui établit une égalité, disons, de traitement. À ceci près que les photos sont au-dessus des textes. Et que du coup, si on voulait un peu ergoter, on se dirait, mais au fond, le texte, il est en situation un tout petit peu de légende.
Oui, ben c'est le problème que je dois vaincre. Mais en même temps, c'est un prix à payer parce que, encore une fois, le travail de la cohérence, c'est lui qui l'a fait.
Si vous écriviez... Et semble-t-il, c'est ce que vous faites déjà, du texte sans photographie. Est-ce que ce serait une forme courte ou est-ce que vous envisageriez de faire une forme plus longue, un récit, un roman, que sais-je, un essai, pourquoi pas?
Alors, j'ai déjà pensé à ça. Et il me semble que la seule voie pour moi, en fonction de ce que je sais faire, de ce que je peux faire, ce serait d'inventer un roman poétique avec des connexions, comme des scènes, quelque chose qui se rapprocherait à la fois du théâtre et aussi des nouvelles, de la nouvelle, c'est-à-dire des choses fragmentées et dont la liaison serait visible à la fin, dont la cohérence éclaterait à la fin. Mais j'ai une conscience que ça demande un travail de structure qui est très fort. En peinture, je suis arrivé à structurer ma peinture, mais je me demande encore comment j'y suis arrivé. Je sais maintenant quels sont... C'est comme grimper une montagne. Il faut échelon par échelon, et en même temps, la cohérence est donnée par la montagne. Donc c'est quelque chose de délicat. Pas difficile, mais très très délicat.
Est-ce que vous avez écrit sur la peinture ?
Oui, j'ai écrit des textes de présentation des travaux que j'avais faits. J'ai toujours trouvé ça un petit peu difficile d'en parler, de parler de la peinture. C'est plus simple quand les gens vous interrogent directement dans une galerie. À ce moment-là, vous pouvez expliquer comment vous essayez d'arriver à quelque chose. Mais c'est difficile de faire mieux.
Et est-ce que dans votre peinture, il y a des mots ?
Non, je ne fais pas du tout de... Si, enfin, ça m'est arrivé une fois, j'ai fait une série sur des graffitis que j'avais récupérés en Italie dans un chantier naval. Des graffitis, c'est une exposition qui a eu lieu à Sète il y a un peu moins d'une dizaine d'années. C'était des graffitis qui étaient assez orduriers, c'était l'expression libre dans les WC. Hein. Donc, par contre, ça avait une force graphique incroyable. Là, il y avait des mots, effectivement, j'ai récupéré les mots, qui étaient assez sordides. C'était des histoires entre les Italiens du Nord et les Italiens du Sud, c'est assez cru. Et là, j'ai utilisé des mots, effectivement, j'ai peint des mots. Mais je ne suis pas du tout lettriste, il y a une école qui fait ça. Mais l'intérêt, c'est d'essayer d'oublier le mot pour en conserver la trame, pour en conserver le dessin, comme des hiéroglyphes, en fait. Il faudrait être incapable de lire ce qu'on voit pour en apprécier un petit peu comme les caractères chinois, où on arrive à saisir leur beauté parce que, justement, ils sont un peu incompréhensibles.
Alors, en regardant, moi, l'exposition, je me suis... plus à imaginer que, comme on a un encadrement photographique, ce que l'on nous donnait à lire, je parle bien du texte, n'était que la prise de vue d'un texte qui serait beaucoup plus important et dont on aurait isolé ce fragment. Un peu comme la photographie est un fragment d'une totalité plus grande qui a été isolée. Qu'est-ce que vous évoque cette métaphore ?
Je la trouve intéressante parce que c'est tout le problème du hors-champ.
Exactement.
Ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. Le texte, à la limite, effectivement, pourrait être vu comme une voix off. Et j'avais pensé à un moment, je crois que peut-être c'est ce qu'on va faire ce soir, qu'il y ait des lecteurs des textes, de manière à donner le souffle aux mots. Parce qu'une poésie lue ou une poésie chantée, c'est quand même quelque chose d'inouï, hein, comme Ferré l'a montré avec Verlaine et Rimbaud, et Baudelaire aussi. Et c'est cet aspect de la chose, de toute façon, on ne voit que des choses partielles. Et en plus, on voit des choses partielles dans le réel et des choses partielles dans l'imaginaire. Donc les deux fragments se superposent, se brouillent, c'est très complexe. Notre réalité est très complexe, en fait. Et il semble qu'on n'en parle pas suffisamment et que les gens ne mesurent pas combien leur réalité est complexe. Et ça, c'est une grosse perte, je pense, de nos sociétés humaines. Le religieux avait trouvé sa place en complexitant et en complexifiant et en donnant du sens à tout ça. Bon, on peut penser ce qu'on veut du religieux. Il y a une religion sans Dieu qui reste encore à inventer.
Merci beaucoup.
Du 4 au 22 mai, retrouvez la deuxième édition du Printemps des photographes à 7. Le collectif Images présente 25 photographes pour découvrir d'autres Suds avec expositions, films, marathons photo et rencontres en public que vous propose Divergence FM, la radio du festival. Le printemps des photographes, c'est du 4 au 22 mai prochain à 7. Plus d'infos sur le www.printemps-des-photographes.fr.